Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Alors je vous raconte déjà, c'est la troisième émission, les papes en Avignon. Je vous ai expliqué leur organisation, les crises de l'Église et en quoi Avignon est une capitale avec un palais tel que nous le connaissons maintenant, qui a été donc créé par Clément VI, une bibliothèque qui rivalise avec celle de la Sorbonne. Avignon, c'est un centre économique, et quand Clément V s'établit en Avignon, il n'y a qu'une seule monnaie, celle du comte de Provence. Et bien maintenant, le pape frappe la monnaie. C'est une monnaie d'argent, ça s'appelle des deniers ou des gros. La monnaie d'or, elle est connue en Italie depuis le milieu du XIIe siècle et en France depuis Saint-Louis. Elle est d'usage courant en France. C'est à partir de 1322 que les papes décident d'utiliser aussi la monnaie d'or. C'est le signe, bien sûr, d'une souveraineté. Cette monnaie du pape, ça s'appelle le florin. On y voit inscrit « Sanctus Petrus ». Alors, cette monnaie circule à Avignon. En plus de celle du pape, toutes sortes de monnaies aussi. Le florin de France, celui de Gênes, le ducat de Venise, le florin d'Allemagne, le franc de Provence. Alors, ça explique bien sûr qu'il y a eu beaucoup de changeurs. À cause de toutes ces monnaies, il y a des changeurs, mais aussi des banquiers qui se chargent eux-mêmes du change. Alors on répartit les pièces dans différents sacs, selon qu'elles sont en or ou en argent. En 1327, on compte à Avignon 43 changeurs. En plus de changer les pièces, ils acceptent des dépôts et ils facilitent les transports de fonds d'un pays à un autre. Ils prêtent, mais il prête en camouflant le taux d'intérêt pour ne pas tomber sous le coup de sanctions. Alors, à côté des changeurs, il y a aussi des hommes d'affaires, les marchands, qui sont des financiers autant que des négociants. Ils organisent l'approvisionnement de la cour pontificale en produits de grand commerce international. Les grandes sociétés italiennes ont des réseaux, des filiales, des succursales qui couvrent tout l'Occident. Et les mouvements d'argent se font au départ de Bruges, de Paris, de Londres, de Barcelone, de Séville. Les grandes sociétés procurent à Avignon des fourrures, des draps d'or, la cire, l'albâtre, les armes, des pièces d'orfèvrerie. Les affaires sont réparties en plusieurs compagnies. Jean XXII, donc l'un des papes d'Avignon, se garde de tout ce qui peut ressembler à un monopole. La papauté, c'est pas un état isolé. Les relations avec les royaumes sont quelquefois compliquées. L'empereur d'Allemagne, celui qui est élu, se fait couronner à Rome. Vous allez voir plus tard que pas toujours. Le pape en déduit, eh bien finalement, qu'il a pouvoir sur l'empereur. Alors, bien sûr, celui-ci dit que non. Il y aura toujours une rivalité entre ces deux pouvoirs, le spirituel et le temporel. Alors là, ça donne lieu quelquefois à des invectives, par exemple de la part du Florentin Dante, Dante Alighieri. Ce dernier compte sur l'empereur Henri VII pour avoir une place dans le gouvernement. En 1304, il commence la Divine Comédie et il écrit que l'empereur a la primauté sur la papauté. Papauté, vous pensez bien que le pape n'est pas content. Et il se base là-dessus sur les paroles évangéliques qui déclarent l'inaptitude de l'Église à toute fonction temporelle et à tout rôle politique. C'est vrai, hein, quand on lit l'Évangile, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La condition de la paix pour Dante, c'est l'équilibre des pouvoirs Et il dit que l'Église bouleverse l'ordre naturel quand elle se mêle du gouvernement temporel à la place de l'empereur. Et il ajoute que l'empereur tient son pouvoir de Dieu seul. Mais le pape, il dit la même chose. Hein. Alors, l'empereur ne doit au pape que le respect, c'est tout. Alors, d'autres écrivains défendent absolument les mêmes idées. En fait, quand les papes en Avignon tentent d'imposer leur intervention dans les conflits des princes, c'est pas en tant que supérieur, mais, tout de même c'est vrai, en tant que médiateur. Alors, ils n'invoquent pas le bien des chrétiens et la nécessité de la croisade. Ils ne mettent en œuvre finalement que la diplomatie. La croisade, pour l'instant, on l'a un peu oubliée. Quand il s'agit de faire céder un puissant de la société laïque, le pape dispose de deux armes et il va les utiliser, tous. L'excommunication et l'interdit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? L'excommunié est exclu de l'Église, donc privé des sacrements. S'il meurt excommunié, il est privé de sépulture en terre sacrée. Autant dire qu'on l'enterre en plein champ. On excommunie surtout les princes, par exemple Jean sans terre, ou Frédéric II, ou Louis de Bavière, on va en reparler de celui-là. L'excommunication peut frapper aussi une ville entière. Alors pourquoi est-ce qu'on excommunie ? Eh bien, par exemple, quand il y a une rébellion spirituelle ou temporelle contre l'Église. Alors, je vous donne un exemple. En 1343, Clément VI agite la menace d'excommunication contre Édouard III, c'est Édouard III d'Angleterre, hein, qui a fait expulser d'Angleterre les procureurs des légats du pape afin de les empêcher de remplir leur mission. Nous allons faire une première pause musicale.
Thank you.
Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel, je vous parle des papes en Avignon, et là, je vous parle de leur gouvernement. Ils ont donc deux armes, l'excommunication, dont je viens de vous parler, et l'interdit. Alors l'interdit frappe un pays entier, une seigneurie, un royaume. Alors ça détermine quoi ? On ne baptise plus, on ne marie plus, on porte les morts en terre sans prière, les cloches ne sonnent plus. Alors vous pensez bien que le peuple est content, parce que le peuple n'y est pour rien finalement. Hein. Si bien qu'il tient pour responsable qui bat le roi ou le seigneur. C'est la solution, bien sûr, la plus dramatique. Parfois les évêques et les prêtres, qui sont dans un pays où il y a l'interdit, n'en tiennent pas compte du tout. Ils continuent à donner les sacrements. Alors on peut aussi considérer, à ce moment-là, le pape ne peut rien faire, hein. Il a donné la plus grosse des punitions. On peut aussi considérer comme une arme l'intervention du pape lors d'un conflit entre les princes. Les légats utilisent alors la persuasion, mais aussi la menace. Le pape multiplie les interventions au nom de la concorde entre chrétiens. C'est un prétexte commode pour intervenir dans les affaires, bien sûr, intérieures des États. Eh bien, justement, je vais vous raconter ce qui peut se passer lorsque le pape intervient dans un état. Alors, je vous parle d'un monsieur qui s'appelle John Cumming, c'est un des grands du royaume d'Écosse. Il a été l'homme de confiance du roi Édouard Ier d'Angleterre. En Écosse, on a aussi un autre monsieur, Robert Bruce, qui incarne la volonté d'indépendance des Écossais. Boniface VIII s'était prononcé contre les Écossais. Il avait ordonné aux évêques de se soumettre à Édouard Ier. La paix semble faite. Mais les jalousies se réveillent et Robert Bruce, carrément, poignarde Cumming pendant un office religieux et se fait couronner roi d'Écosse. Alors Clément V, furieux, met l'Écosse en interdit. Ça, c'est un premier exemple. Après la défaite de Crécy en 1346, où le roi français Philippe VI s'est fait vraiment étrier par les Anglais, Clément VI veille lui-même à la négociation de la trêve. Ça a été un véritable carnage. Hein. Autre exemple, le royaume de Majorque est composé des Baléares, du Roussillon, de la Cerdagne et la seigneurie de Montpellier. La capitale, c'est Perpignan. Le roi meurt sans enfant. Alors, qui est l'héritier ? L'héritier, c'est son neveu, qu'on va appeler Jacques II. Mais comme souvent, son droit est contesté par son cousin. Et qui est son cousin ? C'est le roi d'Aragon. Alors, Jean XXII s'interpose pour défendre Jacques II. Ce dernier, c'est embêtant, multiplie les maladresses, il s'aliène vraiment ses sujets, il se brouille avec le roi de France Philippe VI, alors Benoît XII s'emploie comme médiateur. Les derniers papes en Avignon pensent toujours à revenir à Rome. Mais à Rome, c'est l'anarchie. Pas seulement à Rome d'ailleurs, dans tous les états pontificaux. Je vous rappelle que le pape possédait des territoires en Italie. Les grandes familles romaines se disputent le pouvoir, les assauts sont menés contre le pouvoir pontifical. Il faut rappeler que si le pape n'est plus à Rome, il est quand même représenté par un vicaire pontifical. Jean XXII se rappelle, en bon juriste, que le pape est vicaire impérial en Italie, pendant que l'Empire est vacant. Alors il fait semblant de croire que l'Empire est vacant, parce que l'empereur qui a été nommé, il n'est pas encore couronné. Alors, il a comme titre aussi l'empereur, le titre de roi des Romains, parce qu'il vient se faire couronner à Rome. Ça signifie que Jean XXII considère le futur empereur, qui s'appelle Louis de Bavière, avec qui on va avoir bien des problèmes, comme illégitime, et il désigne à la place le vicaire, le roi de Naples, à la place de vicaire, pardon, le roi de Naples, à la place du frère du comte de Hollande que Louis avait choisi. Il dit que le spirituel doit toujours l'emporter sur le temporel. Non seulement ça, mais Jean XXII donc lance l'excommunication contre ceux qui lutteront contre la papauté. Alors c'est ce qui arrive à un autre peuple qu'on appelle les Lombards. Et ce n'est pas tout. Il envoie, quand je dis il, c'est le pape, hein, il envoie en Italie un de ses meilleurs serviteurs, un homme autoritaire, très bon administrateur, grand capitaine, qui s'appelle Bertrand du Pouget. Et ce Bertrand du Pouget, il ne part pas seul, mais il part à la tête d'une armée, l'armée du pape. Il arrive et il envoie un capitaine pour exiger de Matteo Visconti qu'il lui remette carrément les clés de Naples. Réponse de Visconti, il jette le chapelain en prison. Même situation à Rimini, avec la famille Malatesta, à Ravenne, avec la famille Polenta. Il faudrait les mettre tous à la raison, mais bien évidemment, l'armée de Bertrand du Pouget ne peut être partout. Jean XXII, alors, le nomme archevêque de Ravenne, en pensant que comme ça, il va impressionner les seigneurs. C'est complètement raté. Les seigneurs ne sont pas du tout impressionnés. De même que va être ratée l'intervention pour que le pape désigne l'empereur. L'empereur, c'est Charles IV, qui fixe en 1356 ce qu'on appelle la bulle d'or. C'est-à-dire, il établit la liste officielle des princes allemands qui seront électeurs de l'empereur, et bien sûr, le pape n'en fait pas partie. Ça, c'est un peu plus tard. En attendant, le 14 avril 1328, l'empereur Louis de Bavière déclare que Jean XXII est déposé pour cause d'hérésie. Alors, quelle hérésie ? Eh bien, je ne sais pas si vous vous rappelez que Jean XXII, c'est un pape qui aime le luxe. Il se fait construire d'ailleurs le dernier palais d'Avignon, celui qu'on connaît. Pour l'empereur, c'est un hérétique parce qu'il ne respecte pas la pauvreté évangélique. Il fallait bien trouver un prétexte. Louis de Bavière, le 18 avril, alors, sceptre et globe d'or en main, fait publier devant le peuple romain un acte d'accusation contre le pape. Le 23 avril, afin de flatter les Romains, l'empereur édicte que tout pape qui veut s'absenter de Rome doit solliciter l'accord du peuple et en plus, il ne faut pas qu'il s'en aille plus loin que 2 jours de route. Alors, il ne s'arrête pas là. Il se passe d'un conclave, puisque comme il a déposé le pape, il dit qu'il faut en élire un autre. Pas de conclave. Le 12 mai, après un simulacre d'élection par le clergé romain, l'empereur, froidement, nomme un nouveau pape, qu'on a tiré du couvent, un franciscain, qui s'appelle Pietro Renabucci, de Carbara. Et il le nomme Nicolas V. Nous voilà avec 2 papes. Un pape en Avignon et un pape en Italie. Alors on le couronne carrément à Saint-Pierre, à Rome, le 22 mai. Donc Nicolas V trouve des fidèles quand même en Lombardie et en Toscane. Milan se tient tranquille, ne veut pas se mouiller. On peut dire quand même que la majorité de la chrétienté reste fidèle au pape d'Avignon. Nous allons faire une 2e pause musicale. Gaudas et Domino, et nos thank you. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte les papes en Avignon. Et je viens de vous dire que l'empereur d'Allemagne, Louis de Bavière, vient d'élire lui-même un nouveau pape, à qui il a donné le nom de Nicolas V. Alors ce Nicolas V, quand même, il a un évêque qui le reconnaît, un seul. Ce pape, donc Nicolas V, fait une fournée d'évêques. Il en nomme 18, comme ça ce sera au moins 19 qui seront pour lui. Le clergé diocésain, lui, veut pas les reconnaître. En plus, il a créé aussi 6 cardinaux. Alors, cette fabrication d'un pape, finalement, déconsidère Louis de Bavière. Ce dernier quitte donc l'Italie et regagne l'Allemagne. Nicolas V ne le suit pas, mais les Romains le chassent, ce Nicolas V, si bien qu'il se sauve jusqu'à Pise. Et là, sans doute, pour se donner de l'importance, il se risque à une manifestation spectaculaire. Je vais vous raconter ce qu'il fait. Le 19 février 1329, ce nouveau pape, là, Nicolas V, convoque le peuple, envoie des soldats chercher à domicile les gens qui se dérobent, fait comparaître dans la cathédrale un mannequin de pape, c'est-à-dire un mannequin en paille, vêtu en pape, et il baptise ce mannequin Jean XXII, il le condamne pour hérésie, il le déclare déchu et il y fait mettre le feu. Le public n'ose pas rire, mais il est quand même bien consterné de cette affaire. Le résultat de ça, c'est que Nicolas V doit se cacher parce que le peuple veut le trucider. Alors, on le trouve, mais il ne le tue pas. Il le livre aux gens de Jean XXII. Alors Jean XXII, ben quand même, c'est un pape gentil parce qu'il lui laisse la vie sauve, à condition bien sûr de renoncer au pontificat. Donc il comparaît le 25 août, vêtu de sa robe de franciscain, hein, ce nouveau pape, la corde au cou, devant donc le consistoire. Et le 6 septembre, il abjure publiquement ses erreurs. Alors on ne le libère pas pour autant, il est consigné au palais et finalement il y meurt le 16 octobre 1333. Plus de deuxième pape. Tous ceux que Nicolas V a nommés sont déchus. Après ces péripéties, Jean XXII songe non pas à s'établir à Rome, mais à Bologne. Pourquoi Bologne ? Parce que c'est la deuxième ville de l'État pontifical. Et surtout parce que Bologne possède une forteresse extrêmement solide, où le pape pourra se réfugier. Donc on se prépare à abandonner Avignon, et le départ est même prévu. Il est prévu en 1332. La bourgeoisie de Bologne est toute contente d'apprendre que le pape va venir là. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle va devenir importante, et même au point de vue financier, au point de vue commerce. Et elle va pouvoir faire concurrence à Florence. Cette idée d'installation du pape à Bologne génère des conflits. Alors vraiment, écoutez, c'est tellement imbriqué les uns dans les autres. Ils se battent tous tellement les uns contre les autres que c'est vraiment trop long à expliquer. Finalement, le pape se dit « Ah là 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 là, il n'est pas question que j'aille m'installer à Bologne quand on voit toutes les péripéties auxquelles je vais devoir m'affronter ». Alors, oui, c'est vrai, l'Italie est en pleine ébullition. Hein. Donc, les derniers mois du pontificat de Jean XXII voient se jouer une véritable comédie diplomatique. Louis de Bavière, le roi Philippe VI de France et le roi de Bohême, tout ça, tout le monde promet quelque chose au pape et puis finalement il se rétracte, si bien que le 4 décembre 1334, heureusement pour lui, Jean XXII, qui en a par-dessus la tête, meurt. Son successeur, c'est Benoît XII. Alors Benoît XII, il n'a pas du tout envie de se battre pour des positions politiques. Par tempérament, il préfère négocier. Eh bien, c'est ce qu'il va faire pendant 8 ans sur tous les fronts. Benoît XII fonde sa politique d'apaisement sur la bonne foi des autres. Seulement, le pauvre vieux, il se rend compte un peu trop tard qu'il a été berné. Il croit toujours que les autres vont être aussi francs que lui l'est. Chacun a tiré profit de sa complaisance, sans la moindre envie de lui rendre l'appareil. Alors il lui faut donc essayer d'être plus réaliste. De tempérament, il est pacifique. il est obligé de se fâcher, de menacer, de condamner. Et les gros ennuis viennent beaucoup de Louis de Bavière, qui décidément est un empereur bien agité et bien versatile. Benoît XII meurt. En 1343, Clément VI reprend la vieille arme pontificale. Il menace Louis de Bavière de destitution. Nous allons faire une dernière pause musicale. Donc, le pape Clément VI menace Louis de Bavière, l'empereur, de destitution. Il intervient aussi dans les affaires de Milan. Le 24 janvier 1349, Luchino Visconti est assassiné par qui ? Par sa femme. Pourquoi ? Ben parce qu'il se préparait à punir ses infidélités. Son frère, le frère de Luchino, son frère Giovanni prend le pouvoir à ce moment-là, à Milan, et il annexe Bologne. Ah oui, mais Bologne, ça appartient au pape. Quelle histoire! Clément VI alors commence par l'excommunier, puis finalement, il se dit « Je vais le reconnaître seigneur de Bologne », moyennant un paiement annuel de 12 000 florins. Clément VI est aussi content d'être débarrassé de Louis de Bavière. Le fait qu'il fonde l'élection de l'empereur sur le vote d'électeurs allemands fâche les Italiens. Parce que les Italiens, ils ne sont pas portés à accepter l'autorité d'un empereur qui se dit romain, puisqu'il porte le titre de roi de Rome, mais qui ne s'appuie finalement que sur une légitimité germanique. Quant aux Allemands, toujours méfiants quand un empereur devient trop important, trop puissant, à titre personnel ou à titre dynastique, eh bien, ces princes allemands voient sans plaisir la maison de Bavière pousser ses avantages dans le Hainaut, en Hollande, en Brandebourg, au Tyrol. 5 princes électeurs, alors, déposent Louis de Bavière. Et le 11 juillet 1346, ils élisent roi des Romains quelqu'un d'autre, Charles Luxembourg, qui va prendre le nom de Charles IV. Ce dernier a beaucoup de liens avec la France. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est le fils du roi de Bohême, qui a été un vassal fidèle de Philippe VI et qui est mort à la bataille de Crécy. Il a pour parrain le roi de France, le dernier des fils de Philippe le Bel, qui a le même titre que lui, Charles IV. Il a épousé la demi-sœur du roi de France, Blanche de Valois, et sa propre sœur à lui, là, l'empereur d'Allemagne. Sa propre sœur, elle est l'épouse du duc de Normandie, le futur Jean le Bon, je ne sais pas si vous vous y retrouvez. Donc le nouvel empereur est couronné le 25 juillet 1346, mais il n'est pas couronné à Rome. Il est couronné à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, et devant la tombe de Charlemagne. Je vous rappelle en effet que la cour de Charlemagne se tenait à Aix-la-Chapelle. Hein. Il n'a pas du tout l'intention d'intervenir en Italie, à plus forte raison de s'installer à Rome. Alors tout le monde comprend que si le pape décide de s'installer à Rome, eh bien Charles IV ne compliquera pas du tout les choses. La semaine prochaine, je vous parlerai justement du retour à Rome des papes en Avignon. Au revoir à tous.